France Inter. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans un monde nouveau. Nous sommes déjà dans une année nouvelle, alors avant de commencer, je vous la souhaite excellente, vibrante et apaisante. En 2025, les scénaristes du réel prévoient encore beaucoup de changements et de rebondissements, ça tombe bien. On est là tous les samedis pour vous accompagner dans ces périodes de mutations profondes. L'année 2025, c'est déjà l'occasion de célébrer un anniversaire qui raconte toute une transformation de la société, les 20 ans de YouTube.
Ok, donc là nous sommes devant les éléphants. Et ce qui est cool avec les éléphants, c'est qu'ils ont des très très longues trompes. Et ça c'est cool.
Ça, c'est la première vidéo YouTube de l'histoire en 2005, une visite au zoo de San Diego postée par l'un des fondateurs. 20 ans tout pile après la création, les contenus postés sur la plateforme sont plus fédérateurs que jamais et cadeau, quelques mois avant de souffler ses bougies, YouTube est devenu officiellement la première chaîne de télé de France. Le site et l'application sont passés devant les chaînes de télévision françaises en nombre d'utilisateurs chez les 15-49 ans et plus de 60% des Français utilisent quotidiennement YouTube. Avec un point de bascule, c'est la famille tout entière qui s'assemble désormais devant des vidéos et les niveaux de production ont atteint ceux du cinéma.
Mais je suis un pourri gâté, il y a des gens ils se cassent les couilles à se lever à 6h et à se coucher à 20h et moi je me plains parce que j'ai un live tous les soirs et un tournage tous les jours. Parce qu'en fait je fais des trucs tellement qui me font kiffer que les trucs que je faisais avant ça me fait plus kiffer. J'ai envie de penser qu'à l'Everest.
Extrait de Kaizen, le documentaire de la superstar Inoxtag, 40 millions de vues en ligne, l'un des grands succès de la plateforme en 2024, diffusé en salle et sur TF1. Un phénomène qui nous dit qu'après 20 ans d'existence, les gamins qui font des trucs dans leur chambre, comme on les a longtemps appelés, donnent le la d'une nouvelle ère où la télé, les vidéos sur internet et les plateformes se croisent et se réinventent mutuellement. Bienvenue dans un monde nouveau.
France Inter. Un monde nouveau. Mathilde Serrel.
Et pour célébrer cet anniversaire spécial, une émission spéciale aujourd'hui avec quatre invités de choix autour de la table, Théodore Bonnet. Tiens, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes réalisateur sur Internet depuis quasi 20 ans et cofondateur avec votre pote, le YouTuber star Squeezie de la société de production Unfold. Ludoc, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes réalisateur, vous aussi, vous faisiez des vidéos sur Internet avant même que YouTube existe. Et vous avez formé Théodore Bonnet qui est à vos côtés à ses débuts. Vous avez travaillé avec de nombreux YouTubers et Buzz, et vous venez de sortir un long format docu-enquête, comment j'ai traqué et fait arrêter un prédateur. Élise Lucet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez fait 40 ans de carrière dans la télévision couleur.
Absolument, dans la télé couleur.
C'est votre expression, ça. Ouais. Les auditeurs vous connaissent comme le visage de l'investigation sur France 2 avec Cache Investigation ou Envoyé Spécial, mais vous êtes aussi une nouvelle star de YouTube avec votre format des rushs. On va en reparler. Enfin, à vos côtés, c'est Nico, bonsoir. Le petit nouveau aussi, hein. On vous connaît sous les pseudos de Nicolas ou Nicotine. Vous êtes créateur de contenu d'abord sur TikTok et aujourd'hui sur YouTube. Vous avez connu un parcours fulgurant puisqu'il y a 3 ans, vous étiez encore facteur.
Exactement.
Bonne année à tous les 4.
Bonne année.
Merci,
bonne
merci
année.
À vous aussi.
Et bonne année encore les auditeurs et auditrices et tous ceux qui nous écoutent sur tous les formats qu'ils veulent. J'aimerais d'abord vous poser cette question. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous êtes allé sur YouTube ? Élise.
Moi, je pense que c'était pour une vidéo de Michael Moore. Je suis pas sûre de moi, mais je sais que j'ai regardé ses vidéos. C'était un journaliste un peu anarchiste, américain, un peu dingo, qui sortait des enquêtes de folie et qui m'a, moi, beaucoup inspirée. Et je crois que c'est lui que j'ai dû regarder en premier. Mais franchement, je sais pas, parce qu'au début, on naviguait. Moi, j'ai beaucoup navigué sur des enquêtes, en tout cas.
Il avait fait notamment Sico sur le système de santé américain, dont on parle beaucoup aujourd'hui, ouais, Fahrenheit 9/11.
Ouais, les industries du tabac. Enfin, franchement, il faisait des supers enquêtes de dingue, avec un ton complètement décalé, un personnage complètement décalé, hein, parce qu'il était étonnant, c'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est bien parce qu'il a cassé les codes en étant ailleurs que dans une chaîne premium. Il a réussi à imposer son style et moi je m'en suis inspirée, très franchement.
Ludoc, premier souvenir de connexion à YouTube.
Alors je suis pas sûr de moi, donc je vais caler un classique de l'époque qui est les scientifiques ou les mecs en blouse qui mettaient du Mentos dans des bouteilles de Coca et ça a très dans tout sens. Voilà, j'ai un souvenir de ça va être peut-être mon premier souvenir YouTube.
Théodore Bonnet.
Alors moi, c'est pas aussi intellectuel, c'était une vidéo de Smosh. Je sais pas si vous vous rappelez de Smosh autour de la table.
Non, non, alors il faut nous aider, moi je me
alors,
souviens
Smosh,
pas.
Alors Smosh, c'était je crois un duo d'Américains qui faisait des comme des lip-dubs, des synchros, enfin des espèces de parodies. Ils avaient fait une parodie de Pokémon à l'époque, du générique de Pokémon qui avait explosé. Et on se parle d'un des premiers gros buzz en fait, de YouTube au tout début de la plateforme. Mais oui, on était très loin des niveaux d'aujourd'hui.
Et
en tout cas.
C'était dans les premiers créateurs de YouTube,
Ouais, c'était un gros, gros créateur à l'époque, ouais.
Et donc ça vous a influencé, vous, en tout cas, à vos débuts.
Ah oui, carrément, ouais, carrément.
Nico.
Alors moi, c'est un peu plus terrible parce qu'on est sur une vidéo pour essayer d'avoir un jeu sur un téléphone mobile. Parce que j'avais un téléphone, j'arrivais pas à avoir un jeu. Et c'était comment avoir Dodol Jump sur un Samsung.
C'est tellement précis.
C'était un tuto, en fait.
Ah oui, non, parce que j'avais un téléphone et en fait, il fonctionnait pas. Et tous mes collègues en cours, eux fonctionnaient. Du coup, j'étais un peu frustré. J'avais regardé comment l'avoir avec des techniques et tout. Au final, je n'ai jamais eu. J'ai dû changer de téléphone.
Par contre, vous avez continué à regarder d'autres trucs sur YouTube.
Ah oui, après, je me suis régalé.
Je pourrais vous dire, est-ce que vous vous souvenez de la première suggestion de l'algorithme? Mais là,
ça serait compliqué.
Ce serait un peu trop deep.
En vrai, c'était des tutos. Hein. On est resté sur des tutos.
Voilà. Tuto beauté, peut-être, vous avez enchaîné.
Ah, pas à ce moment-là, je pense.
Symboliquement, YouTube, première chaîne télé de France. Ça représente quoi, Élise Lucet?
Ben, moi, je trouve que c'est bien. En fait, on change de tuyau. Ce qui est important, c'est le contenu. Mais je trouve ça très, très bien que les chaînes de télé soient bousculées. Objectivement, ça fait 15 ans qu'on voit le truc arriver et qu'on voit l'importance que prend YouTube au fur et à mesure. Et je pense que c'est hyper important d'aller vers ces nouveaux médias et d'y mettre des contenus différents. Moi, je trouve que les frontières qu'on veut mettre justement entre la télé couleur, YouTube, tout ça, ça vaut rien en fait.
Oui, casser les frontières, casser les barrières, c'est ce que vous annonciez quand vous êtes lancé avec votre format des rushs sur YouTube.
Ouais, en tout cas, moi je suis persuadée que c'est hyper intéressant. Quand je me frotte à eux, j'apprends plein de trucs. J'espère qu'ils apprennent des trucs avec moi aussi. Et voilà, donc c'est super bien. Et puis on va toucher plein de publics différents.
Et oui, qui se croisaient pas forcément, puisque vous aviez les vôtres et ceux, par exemple, de Squeezie, votre premier invité.
Ouais, mais moi, j'ai une fille qui est une jeune adulte, on va dire, ou grande ado. Mais si j'étais pas à la maison, elle regarderait jamais la télé, soyons objectifs. Donc, il y a toute une génération qui regarde plus la télé. Donc, il faut aller leur parler ailleurs.
Théodore Bonnet, il y a aussi toute une génération, et même des familles entières aujourd'hui, qui regardent YouTube sur la télé.
Oui, c'est clair, il y a de plus en plus.
Bah oui, votre format, par exemple, qui est très célèbre, qui est l'imposteur que vous faites avec Squeezie, c'est vraiment un des plus grands divertissements aujourd'hui des écrans, comme les grands rendez-vous de la téloche et de la télécouleur, non ? Donc en fait, vos abonnés, les gens qui vous regardent, ils vous regardent sur la télé, c'est YouTube sur la télé.
Et bah, c'est très paradoxal, mais ouais, en fait, on s'est rendu compte que ce format, par rapport aux autres, il se consommait beaucoup en groupe, en tout cas entre amis ou en famille. Ouais. Et en fait, du coup, l'écran de la télé, très paradoxalement, est plus propice à partager un moment ensemble, quand on regarde un contenu, qu'un écran d'ordi ou un téléphone. Donc ouais, on s'est rendu compte qu'en effet, ce format-là était maté, je crois, à 30 ou 40% sur des télés, en fait. Mmh. Alors que c'est un format YouTube.
Et symboliquement, pour vous, ça représente quoi, ce passage-là ?
Moi, j'ai jamais vu vraiment de distinction entre la télé et YouTube. En vrai, nous, on est de la génération, on a grandi avec la télé. Donc en fait, on va dire que c'était plus la télé qui reconnaissait pas vraiment YouTube. Mais nous, en fait, la télé a toujours été une source d'inspiration. J'ai grandi vraiment avec ça. Je suis un enfant du big deal, un peu, quoi. Donc, en fait, il y a une espèce de paradoxe qui se fait aujourd'hui et qui, aujourd'hui, le fait que ça se mate à la télé, je trouve ça très cool, je trouve ça très positif. Et en fait, ça montre que la frontière, elle est infime, au final.
Nico, vous étiez en train d'opiner du chef, comme on dit.
Bah, ouais, je disais ça parce qu'on a vraiment, par exemple, pour la vidéo qui est l'imposteur, ou même souvent les grosses productions des youtubeurs, on a ce truc où, avec mes gueules, on dit: ah, t'as vu la dernière vidéo ? Ah ben, on se la mate ensemble, tu vois. Il y a vraiment ce truc de: est-ce que t'as vu cette vidéo ? Comme si c'était un film ou une série. Et vraiment, on se dit, ouais, faut qu'on se la mate ensemble. Ou alors, si quelqu'un l'a vu et que toi, tu l'as pas vu, t'es là en mode: ah, tu m'as pas attendu. Il y a vraiment ce truc-là de regarder ensemble, quoi.
C'est plus un rapport individuel avec la consommation, comme on l'a appelé aussi, des vidéos sur YouTube. C'est plus individuel comme...
Non. Bah, en fait, maintenant, il y a vraiment ce truc de... Moi, je sais que, par exemple, à l'époque, je regardais beaucoup sur le téléphone, et maintenant, j'ai beaucoup plus de mal à regarder sur le téléphone, et je préfère vraiment être posé pour regarder comme quand on est sur la télé.
Ludoc, comment vous voyez-vous ce passage symbolique de YouTube qui devient la première télé de France ?
C'est assez intéressant parce qu'en plus, comme moi je suis un ancien sur YouTube, j'ai vraiment vu les différents cycles évoluer. Ouais. J'ai connu la période avec le studio Bagel où on avait, y avait un certain confort devant nos vidéos et du coup on pouvait se permettre de faire de la fiction par exemple. Et avec le temps, la consommation a pas mal changé puisque les gens regardaient plus sur leur téléphone, regardaient quelquefois en accéléré ou juste avec le son en faisant de la cuisine ou en étant dans le métro ou dans un parc. Et du coup, ça a amené plus de format vlog, de format jeu et un peu moins de fiction. Et là, on retrouve justement un certain confort devant la télé où on peut amener des documentaires beaucoup plus longs, de l'image beaucoup plus produite. Et c'est vrai que nous, quand on passe du temps sur l'étalonnage, sur le mixage, sur le montage, c'est assez agréable de se dire les gens le regardent dans les meilleures conditions.
Si vous débarquez en 2025 sans jamais avoir rien vu sur YouTube, voici un récap.
Salut à tous, c'est Mister V pour un nouveau podcast et aujourd'hui...
J'ai mon permis, j'ai mon permis, j'ai mon permis, j'ai mon permis.
Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog d'août.
Ça fait 7 ans que je partage mon mois d'août avec vous. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est 7 ans dans une vie?
Open Gangnam Style. Gangnam Style. Op, op, op.
Dans cette vidéo, nous allons construire et offrir 100 maisons. Et chacune de ces maisons va bouleverser la vie d'une famille, comme cette famille qui n'a pas sa propre maison. Et ils ne se doutent pas qu'on leur en a construit une.
La Team Shape, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut InShape et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui, la Team Shape, je vais manger comme un militaire pendant 24 heures.
4 vagues de 3 personnes qui viennent, avec une supposée passion ou métier en commun. Okay. L'un des 3 est un énorme menteur. Et le menteur, il va falloir le dénicher.
20 ans de YouTube en moins de 2 minutes, allez, facile, avec dans l'ordre d'apparition Baby Shark, bien sûr la vidéo la plus vue de l'histoire de YouTube, Mister V, le permis de conduire, c'était en décembre 2011, Léna Situation avec son vlog d'août en 2023, et ça faisait déjà donc 7 ans que ça existait, le Gangnam Style, la première vidéo a dépassé le milliard de vues, Mister Beast qui fait des vidéos de charity, entre autres, qui est devenu le meilleur, pas forcément ça, on en parlera, mais le plus gros youtubeur du monde, 337 millions d'abonnés. Thibaut InShape, je mange comme un militaire, premier youtubeur de France. C'était fin mai la bascule, hein, fin mai 2024. Et puis Squeezie, le plus grand créateur de contenu de France, qui est l'imposteur. Ce format qui rassemble des millions de Français, 34 millions sur l'extrait qu'on a entendu avec Eric et Ramzy. Théodore Bonnet, c'est celui-là qui me donne envie de vous faire réagir. Vous dites, j'ai lu ça dans des interviews, que vous êtes tous les deux en slip. Et là, vous trouvez vos idées.
C'est
vrai
ça.
Ou c'est pour faire genre le YouTube d'avant alors que non, c'est vachement produit.
Non, c'est presque ça. Pour le coup, avec Squeeze, enfin, en termes de création, on est souvent 2 ou 3 avec notre chef compteur d'ailleurs qui réalise un poster. D'ailleurs, c'est plus moi maintenant, c'est Théo Meunier et qui a un énorme talent pour un peu mettre en scène cette émission. Et en fait, non, la création, la plupart du temps, on est tous les deux. Et justement, on tient à garder ce côté un peu fait maison, en tout cas dans les idées, pour que ça reste naturel et justement pas qu'on tombe dans des grandes réunions avec plein de gens, plein de trucs. Enfin, on aime bien pour le coup. Lui, il a une culture très web, moi très télé, ou web aussi. Et c'est ce mélange des deux cultures qui va permettre d'avoir des idées un peu originales, en tout cas je l'espère jusqu'à maintenant. Et c'est ce qui nous permet d'avancer, quoi.
Vous, ce qui est impressionnant, Ludoc, c'est que vous avez fait vos premières vidéos avant même que YouTube existe. Vous n'avez même pas vu des gens en train de faire des vidéos sur YouTube. Vous vous êtes carrément mis à, je crois, coder. Ouais. Vous êtes débrouillé pour coder vos vidéos et les balancer sur Internet.
Ouais, j'avais appris à coder un site pour le faire moi-même et pour diffuser mes vidéos en streaming ou en téléchargement sur des logiciel de type Real Player, enfin vraiment à l'ancienne, et où il fallait d'abord télécharger la vidéo avant de la voir, mais parce qu'à l'époque effectivement il n'y avait pas YouTube et Dailymotion et on voulait partager des vidéos entre copains qu'on filmait pendant les intercours au lycée. Et ouais, j'avais appris ça. Et j'avoue, quand YouTube est arrivé, et Dailymotion aussi, c'était beaucoup plus simple.
Élise Lucet, vous prenez votre temps dans des rushs, on est sur un mode canapé, on est posé, on va écouter un extrait tout à l'heure, mais c'est ce format long aussi qui vous a permis d'arriver sur YouTube. Vous auriez pu vous immerger dans cette culture-là, à l'époque où c'était peut-être peut-être un petit peu plus court, ou c'était des sketchs face caméra dans les chambres, si je me ramène aux années début 2010.
Moi, je pense que tous les formats sont possibles. C'est aussi ça qui est vachement bien sur YouTube, c'est la liberté. C'est de se dire qu'on peut faire un 3 minutes, un 11 minutes, un 1 heure. Enfin, franchement, Inox, là, c'est 2h40 ou un truc comme ça.
Ouais, quasiment.
Inox Tag. Et donc, voilà, c'est cette liberté-là qui est vraiment bien, je trouve. Et on peut s'exprimer de plein de manières différentes.
Vous êtes sur TikTok aussi?
Oui, mais j'avoue que je trouve quand même que c'est vachement plus intéressant sur YouTube, cette capacité de faire des formats justement qui peuvent être longs. Là, sur TikTok, c'est pas possible, quoi. On va pas faire moi, je crois que je fais 1h06, je fais pas 1h06 sur TikTok, c'est pas possible.
Non, ça va être compliqué.
Vous, Nico, vous êtes passé de TikTok à YouTube.
Exactement, exactement. Moi, j'ai fait ma transition parce qu'en fait, j'ai vu que sur TikTok, ça marchait bien. Et je me suis dit, j'ai pas envie de m'enfermer sur le réseau toute ma vie. Donc, il faut que je prépare mon après. Et du coup, je suis parti sur YouTube. Mais en vrai, avant de faire ma transition, je suis quand même passé sur Twitch, qui était une plateforme où on fait du direct et on voit vraiment ce que ça donne, pour après en faire des rediffs montés et les envoyer sur YouTube.
Est-ce que justement la plateforme Twitch, elle a pas amené cette longueur d'une certaine manière, habituant aussi si. À regarder les choses en longueur, si, si. Ces mouvements qui sont ceux de la vie et en étirant les conversations.
Si, parce qu'en fait l'avantage avec Twitch, c'est que les gens ils te voient vraiment plus posé. Du coup, ce qui fait que quand ils se mettent sur Twitch, bon, souvent il y en a, ils font comme sur YouTube, ils font autre chose, ils mettent en fond comme un fond musical, mais vraiment ça, c'est pas la même communauté que YouTube, c'est quand même différent parce que les gens ils sont là, ils se posent et ils écoutent vraiment, et il y a pas de montage, il y a pas d'effet, il y a rien.
C'est un peu les radios libres, non ? D'une certaine manière,
c'est ça.
Au début des années 80.
C'est ça, mais c'est même ce qui marche un peu le mieux. Des fois sur Twitch, c'est vraiment on se pose et on parle avec les gens et on discute, et c'est ce qui marche le mieux parce que les gens, déjà, ils se sentent un peu concernés parce qu'ils participent au truc, et en plus de ça, ils sont heureux parce que on est authentique, quoi. On est vraiment vraiment authentique.
YouTube est-elle devenue la première chaîne de France devant TF1 et devant France 2 comme ça par hasard? Comment les contenus de cette plateforme ont-ils réussi à être assez puissants et fédérateurs pour que je pose cette question aujourd'hui? On en parle dans un instant, juste après Théodora.
Baby boo, tu sais, je vaux beaucoup. Même si parfois je ne joins pas les deux bouts. C'est à cause de mon fiat qu'il éloigne trop mes genoux. Et mes gros seins me font souvent mal au cou. Baby boo, tu sais, je vaux beaucoup. Même si parfois je ne joins pas les deux bouts. C'est à cause de mon fiat qu'il éloigne trop mes genoux. Et mes gros seins me font souvent mal au cou. Congolis, baby aimerait sa pie. Yeah. Voici sous Cali, je me lève, je suis déjà belle.
se destinait à faire de la politique, mais elle a tout arrêté pour se consacrer pleinement à la musique. The Boss Lady, Théodora sur France Inter. C'est à cause de mon fiac, il éloigne trop mes genoux et mes gros seins me font souvent mal au cou, clame-t-elle dans ce tube propulsé par TikTok. Ça s'appelle Congolise sous BBL. Allez regarder ce qu'est un BBL tout de suite. En tête du top viral de Spotify France et un carton à l'international. Merci qui ? Internet.
Mathilde Serrel, un monde nouveau sur France Inter.
Autour de cette table pour les 20 ans de YouTube, un gros gâteau, Élise Lucet, Théodore Bonnet, Ludoc et Nico. D'abord, je voudrais vous poser cette question. Est-ce qu'on pourrait comparer ce qui arrive à YouTube au rap et au R&B d'une certaine manière, c'est-à-dire passer du stade de culture en marge à culture majoritaire? Élise Lucet, vous avez deux heures.
Moi oui, carrément, je pense. Bah, déjà, le simple fait qu'on puisse regarder YouTube sur une télé en famille ou entre potes, ça montre bien que ça, c'est tout génération confondue. Donc oui, c'est sorti d'une sorte de niche dans laquelle on a voulu enfermer des gamins qui effectivement enregistraient des vidéos dans leur chambre à quelque chose d'hyper produit. Moi, quand je suis venue sur la vidéo de Squeezie, je l'ai dit, j'étais complètement scotchée. La production, c'est un truc de dingue. Enfin, c'est des trucs de pro. Moi, je regarde des youtubeurs maintenant, le traitement des datas dans certaines vidéos de YouTube, mais on a des trucs à apprendre, nous, à la télé couleur, sur ce qu'ils font. Ils sont super bons. Enfin,
MrBeast, par exemple, le premier youtubeur du monde, lui, il travaille d'abord toute sa titraille, tous ses petits mots-clés aussi que le moteur ensuite va venir chercher avant de tourner. C'est presque plus important dans le concept, quoi.
Ouais, mais c'est ça, on est passé d'un tournage cuisine ou chambre d'ado à des trucs de hyper pro et puis très agréable à voir. Alors certes, les montages sont différents, le rythme n'est pas le même et tout, n'empêche que c'est du super bon boulot.
On va vous écouter dans votre exercice de youtubeuse, vos premiers pas avec un sacré parrain, Élise Lucet, c'est parti.
Carrément.
Bonjour à tous, bienvenue dans mon nouveau format YouTube. Je fais un peu JT là, non? Ça fait un peu genre...
C'est très JT, mais c'est toi, sois toi-même.
Ah, il faut que je sois...
Continue à être
toi. Ça va? Bon, ok, je vais essayer. Mais on va être plus cool quand même que JT, non? On va essayer un peu. Hein.
Moi, je suis fan, donc ça me va aussi. Hein.
Ok, bon, bah moi je suis super contente, parce que ça fait très longtemps que je voulais faire ça, et je suis vraiment encore plus contente, parce que je démarre pas avec n'importe qui, je démarre avec Squeezie.
Et ce qui est très intéressant, c'est le look, look que j'essaierai de refaire à la bouche. Vous avez travaillé avec les codes de réel de YouTube aussi, Élise. C'est
ouais,
ça
mais,
qui marche entre
mais
autres.
Parce qu'on a un super monteur, qu'on a une très bonne équipe et qu'on a vraiment bossé là-dessus. Et moi, je ne vais pas aller sur YouTube pour faire la Élise Lucet qu'on voit à la télé couleur. Ça n'a aucun intérêt. Sinon, je continue à faire ce que je fais et puis voilà. Et ce qui est intéressant...
Vous avez quand même fait une interview fouillée parce que vous arrivez à avoir la première réaction de Squeezie au poste qu'il avait fait hein, pour
sur
c'était,
le RN,
c'était sur le RN au moment des législatives et puis vous avez presque cette info plateforme, il prépare un jeu pour une plateforme mais vous n'arrivez pas à l'avoir totalement.
Mais si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est le mix des deux, c'est-à-dire de dire justement moi je viens d'une émission qui s'appelle Envoyé spécial, qui a une mine d'or de reportages. Certains ont été tournés, Squeezie n'était pas né, d'autres ils ont été tournés, Squeezie avait 4 ans, et donc je lui sors deux reportages qu'il concerne de très près justement sur internet et sur les webcams.
C'est le
et...
concept, c'est un react,
ouais,
comme on dit.
Un react et un transgénération aussi. Et puis, moi, je peux pas m'empêcher de poser des questions. Et j'essaie que ces questions soient pertinentes. Donc, c'est vrai que Squeezie, il est hyper intéressant. Il a des choses hyper fortes à dire, qu'il dit pas forcément dans ses formats à lui. Et donc, ce qui était vraiment intéressant, c'est de l'entendre sur son poste sur le RN, oui, sur son avenir, sur comment il voyait la suite. Et moi, je suis scotchée. C'est-à-dire que souvent, je me dis, mais ils ont commencé vraiment tout petits en se disant, je suis sûre que leur...
Il a commencé
les engueuler. Leurs parents les engueulaient en disant mais c'est n'importe quoi ce que tu fais. Maintenant, ils font des succès de malade. Donc, de temps en temps, quand ils se retournent, je me dis mais ils doivent se dire mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Qu'est-ce qui s'est passé?
Vous vous dites ça? Question à Ludoc et Théodore Bonnet. Théodore Bonnet, est-ce que vous vous dites ça? Vous dites aussi, j'ai vu ça, vous n'avez plus jamais envie qu'on vous prenne pour les mecs qui font des trucs dans leur chambre uniquement?
Non, je pense qu'il y a une époque où, en fait, objectivement, la plupart de YouTube, c'était en effet des gamins qui faisaient des trucs dans leur chambre pour des gamins qui étaient eux-mêmes dans leur chambre. Donc, en fait, c'est normal que d'autres personnes qui n'étaient pas forcément à même d'être la cible n'étaient pas sensibles à cet humour, à ce style de contenu, etc. C'est juste que on vieillit avec nos audiences et qu'en fait, un Squeezie qui était jugé à l'époque parce qu'il faisait du gaming à 17 ans, bah maintenant il en a 28 et son audience bah elle a aussi 28, donc le contenu évolue, donc la cible évolue et en fait on grandit tous ensemble. C'est un truc qui est plutôt cohérent.
Ouais, enfin vous faites plus que grandir ensemble parce que vous avez rameuté plein de gens qui sont pas de votre génération, hein, qui sont ou des plus petits ou des plus grands. C'est ça qui est super.
Oui, c'est pas simplement les abonnés du départ qui vous ont suivi. Ça s'est totalement élargi. D'ailleurs, même j'imagine que dans l'ADN des vidéos, ça doit être difficile de s'adresser au plus grand nombre. Hein. Vu le nombre d'abonnés, comment est-ce qu'on garde justement l'ADN de départ ?
Bah ça, pour le coup, c'est le talent de Squeezie qui lui est propre. Et après, nous...
Moi, je dirais que c'est la sincérité.
Ouais, il y a aussi beaucoup de sincérité. C'est vrai que Lucas est quelqu'un de très sincère sur ce qu'il dégage, sur ce qu'il raconte. Et après, c'est surtout... En fait, nous, ce qu'on se dit, on pense pas trop à l'audience, à comment toucher telle cible ou quoi. Nous, ce qu'on se dit, c'est qu'est-ce qui nous fait marrer et qu'est-ce qu'on aimerait bien voir nous. Enfin, qu'est-ce qu'on aimerait bien voir comme contenu. Et en général, on part de ça pour dérouler le fil et essayer de produire des idées cool, quoi.
Moi, je m'adresse aussi aux réalisateurs d'Internet, Ludoc. Je disais, on entend le petit chclouc dans la vidéo d'Élise. Il y a des codes, il y a une grammaire de la réalisation YouTube aussi qui s'est installée en 20 ans.
Il y a peut-être un rythme, parce qu'il y a une différence aussi. En fait, j'ai l'impression que quand on est devant la télé ou même au cinéma, on est un peu plus passif. Quand on est devant son téléphone ou devant un ordinateur sur Internet, on est un peu plus actif. Il peut y avoir plein de sources de distractions. Donc moi, je sais que c'est un rythme où on a tendance à avoir une intro très, très speed, un peu teaser qui essaye de donner envie pour capter l'attention au maximum. Parce qu'on sait qu'à tout moment, la personne peut recevoir une notification, un message, voire une autre vidéo recommandée. Donc il y a un certain rythme,
c'est
je pense.
C'est un hook,
très...
c'est ça ?
Ouais, il y a un peu ça. Mais c'est toujours... moi, je sais que...
On a
ouais, un peu une sorte de carotte pendant toute la vidéo, mais après, on alterne le rythme. On va avoir un début très rythmé, ensuite un peu plus calme pour poser un contexte, après à nouveau rythmé, mais on essaie de garder un peu ce truc-là jusqu'au bout pour pas perdre les gens au fur et à mesure, parce que contrairement, en effet, au cinéma ou à la télé, les gens peuvent plus facilement passer à autre chose.
Mais vous avez amené du cinéma, vous, dans votre travail de réalisation sur Internet. Justement, vous avez eu envie de professionnaliser les choses dans le sens de l'art, en fait, aussi, de faire des plans qui soient beaux, d'attaquer des plans larges. C'était quoi vos références ?
Bah parce que, enfin moi, et je pense Théo aussi, on a tous cette éducation très cinéma aussi. Moi, j'ai regardé énormément de films et j'ai toujours voulu faire des films au cinéma ou ce genre de choses. Et du coup, quand on commence à en avoir la possibilité et d'avoir une plateforme pour le faire, et cette liberté, on essaie d'amener de la belle image et de la belle production. Je sais qu'au début, notamment avec le studio Bagel, c'était un peu difficile parce qu'il y a toujours cette peur, quand on travaille avec des comédiens, avec des auteurs, la peur de, attention, si c'est trop produit, si c'est trop beau, ça va être moins drôle. Et ça a été aussi notre travail, avec Théo notamment, d'expliquer que non, c'est pas juste parce qu'il y a plus de budget, plus de personnes autour de la caméra, que ce sera moins drôle, c'est juste ça prend un peu plus de temps, mais on peut quand même avoir un truc vraiment très quali et très cool.
Après, la difficulté Théodore à l'époque, Bonnet. C'est aussi qu'on n'avait pas d'argent.
Oui, bah oui voilà,
on avait
surtout.
Très peu d'argent pour produire du contenu.
C'est surtout ça.
Et en vrai, Ludoc est modeste, mais c'est un des premiers vraiment qui a fait du contenu, pour le coup, réalisé sur Internet. Je parle au sens de l'image, de la mise en scène, du découpage. Et ouais, c'était un gros boom sur YouTube parce qu'il n'y avait pas ça à l'époque. À l'époque, c'était des parodies, comme Smosh dont on parlait tout à l'heure, du lip-dub, de l'humour. Et là, d'un seul coup, Bagel est arrivé avec une direction artistique forte qui était proche du cinéma, à notre petite échelle évidemment. Et pour le coup, c'est Ludoc.
On est il y a une dizaine d'années là, et tout d'un coup,
il y a plus que ça, je dirais, il y a 13-14 ans.
Il y a 13-14 ans.
Bagel, c'est 2012.
Ouais. Et à ce moment-là, vous avez aussi vécu tous les deux cette aventure, parce que les liens entre la télévision et YouTube, aujourd'hui, donc c'est très entremêlé, c'est une hybridation qui est de plus en plus visible.
Il y a encore du boulot. Hein.
Mais il y a du boulot. En tout cas, vous êtes on peut dire, la meilleure, en tout cas, des agents d'hybridation. Élise Lucet, quand on regarde les commentaires sous votre vidéo de Desrush, on dit waouh, c'était la meilleure pour faire le pont, etc. Les gens sont
cool.
Hyper enthousiastes. Je vous conseille d'aller voir, vous avez besoin d'un ego boost, vous allez voir les commentaires.
Ouais. Élise, ton format est super. Hein. C'est vraiment un très très bon format YouTube.
Oula, alors.
En fait, il y a un truc qui est réel, c'est que ça n'aurait pas fait autant de vues si c'était pas super.
Ouais.
Tu vois, on a toujours tendance à penser que quand tu mets un gros créateur, d'un seul coup, ça marche systématiquement.
Non, ouais.
C'est pas du tout le cas.
Pas du tout.
Donc si ça a marché aussi bien, c'est vraiment que c'est un très bon format. Et moi, pour le coup, qui en bouffe beaucoup,
oui.
je suis vraiment une heure, presque un peu plus d'une heure, non
ouais,
comme ça, fixé devant. Et c'est super, vraiment. C'est
bravo, et prochaine invitée, allez, je vais glaner l'info.
Mais non, je peux pas le dire. Non, c'est pas ça. C'est que, en fait, j'ai trois oui de trois créateurs différents. Mais le problème, c'est les emplois du temps. C'est-à-dire qu'entre le leur et le mien. On est un peu dans une boîte à chaussures, quoi. Faut vraiment trouver le créneau qui convient à tout le monde.
Il y a Léna Situation dans les trois.
Je suis allée sur son canapé, donc elle me doit un retour.
Ouais.
Obligatoire.
Et moi, je voudrais parler de cette première expérience de hybridation télé-YouTube, parce que vous avez tous les deux connu un moment donc, de rachat du studio Beagle par Canal. Ouais. Donc là, vous avez vécu ce que c'est que d'arriver d'importer vos méthodes, votre créativité, en ayant un badge pour rentrer dans une grande chaîne. Et ça ne s'est pas super bien passé. Donc il y a des dynamiques, non ? Comment vous l'avez vécu, vous ? Qui peuvent permettre que ça se mélange.
Petit à petit, au début, c'était avant même d'être racheté, on faisait des petits programmes. Je sais que j'avais fait un programme pour le Grand Journal, qui était Groom Service, avec Jérôme Niel, où on avait plusieurs acteurs et actrices pendant le Festival de Cannes. Donc on a commencé comme ça, ça marchait plutôt bien. Ensuite, on a fait les tutos au Grand Journal, et après, il y a effectivement eu le rachat. Après, ça a amené plein de choses très cool, comme un encadrement, beaucoup plus de... Je pense que le studio Beagle aussi, en saison 2, on n'aurait pas forcément pu continuer sans un canal, sans un rachat, parce qu'il y avait juste le financement de YouTube, et il faut le dire, c'était pas vraiment rentable. Mais ça a amené plein de trucs cool. Après, en effet, on perd le côté un peu famille, on rentre un peu dans un aspect plus usine à gaz, plus chaîne, où il faut respecter des délais, il faut respecter beaucoup de choses. Donc on perd quelquefois un peu d'artistique, mais ça fait partie du jeu aussi.
Et là, avec votre enquête, justement, vous avez dû pousser encore un peu plus loin ce qui est possible de faire dans une vidéo YouTube, puisque vous avez fait une enquête de 3 ans sur un 4 ans.
Ouais,
attention, la journée d'investigation, là, les chiffres. Moi, j'ai lu 3,
direct,
c'est 4. Hein. Ah ouais,
c'est juin 2014, je dépose la main courante, et 10 avril 2018, il y a le procès. Donc on peut parler... Ouais,
donc on peut dire qu'Élise a raison. Allez, moi, vous me donnez un petit 3 ans et demi. Allez.
Mais son enquête, elle est top. Enfin, franchement, c'est pour ça qu'il faut arrêter.
C'est un prédateur qui a contacté
Ludo. Prédateur sexuel.
Un pédocriminel. Un pédocriminel, lorsqu'il était en tournage, justement, avec le studio Beagle.
Totalement. À Los Angeles, on était en tournage, et il arrivait que tous les jours, il y a des gens qui échangent nos Skype, nos Facebook pour essayer de nous poser des questions. Jusqu'au jour où il y a une personne comme ça de 58 ans qui commence à me poser des questions très bizarres, très axées sexe, pour savoir un peu si j'étais bi, si je l'avais déjà fait, ce genre de choses. Il ne savait pas du tout qui j'étais. Il ne connaissait pas du tout mon âge. Je l'ai très vite compris. Et du coup, je suis un peu rentré dans son jeu en lui faisant croire que j'avais 14 ans. Et pour avoir le maximum d'informations sur lui, pour le localiser, le traquer et ensuite le dénoncer à la police, ce qui a lancé effectivement l'enquête de 4 ans.
Et là, vous avez dû aussi faire face à ce que peut être la censure, en tout cas la modification de vos contenus pour pouvoir le proposer à YouTube pour que ce soit vu au plus grand nombre, mais que vous ne soyez pas invisibilisé, parce que si vous avez un label moins de 16 ans, vous disparaissez automatiquement de la plateforme et des recommandations.
Ouais, c'est ça. Moi, dès le début, je voulais que ce soit sur YouTube gratuit, accessible
pour
à tout le monde.
Pour que les jeunes le voient, justement.
Sinon... Parce qu'effectivement, les jeunes, malheureusement, regardent de moins en moins ce genre de format à la télé ou sur les plateformes, et du coup, le but, c'était d'être sur YouTube. Mais quand tu es sur YouTube, tu peux aussi te prendre en effet un moins de 18. C'est-à-dire que je sais que la vidéo est démonétisée parce que le sujet est dur, et donc aucune sponsor peut s'associer à ça, mais le moins de 18 il est très violent parce que du coup il faut être connecté, c'est beaucoup plus difficile d'être accessible.
Moi je sais pas si on peut parler de censure,
c'est une protection.
C'est un code à respecter sur la plateforme, tu le sais avant,
pour pouvoir y être.
Et justement pour pouvoir s'adresser aussi à plein de gamins, et je pense que franchement Ludoc, quand il sait que potentiellement il y a une gamine de 11 ans, un gamin de 12 ans devant, il va pas raconter l'histoire de la même manière.
Oui, et surtout il
veut les toucher.
Il va faire en sorte qu'il le voit,
bien sûr.
Et vous avez cette formule Ludoc que j'aime bien, on laisserait pas des enfants dans un parc sans surveillance, c'est un petit peu pareil avec Internet. Comment vous vous y êtes arrivé, vous, justement, Nico, quand vous débarquez sur Internet, vous étiez facteur avant, vous vous mettez à faire du contenu, vous aviez quelle culture et à quoi vous avez fait attention aussi pour exister là et puis pas tomber aussi dans des choses dures?
En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai quand même, avant de commencer, j'ai commencé, enfin, pas tard, mais on va dire que c'est vrai que la plupart des créateurs maintenant ont commencé à marcher à partir de 16, 17, 18. Moi, j'ai commencé à marcher, j'avais 23, donc j'ai commencé tard, et du coup, j'ai quand même une grande culture, j'ai beaucoup, beaucoup consommé, sans pour autant me dire que j'allais faire pareil, mais du coup, ça t'instaure quand même un certain mindset, on va dire. C'est ça qui aide, on va dire, pour avancer.
Et est-ce qu'on peut dire qu'il y a une spécificité de l'internet français? Parce qu'en fait, on se rend compte que les contenus internet qui sont produits par la France sont beaucoup plus performants que dans les autres pays. Ouais. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Qu'est-ce qui fait que nos contenus sont particulièrement performants? Enfin, on a une French touch du web, on pourrait dire.
Je pense, c'est parce qu'on a quand même pas mal de trucs qui fait que les gens participent. Quand on fait des grands événements, au fur et à mesure des événements, on arrive à impliquer vraiment tout le monde, et il y a ce truc de vraiment divertir et de réfléchir à faire plaisir à la personne et que la personne limite participe au jeu sans forcément y être, quoi.
Je pense aussi qu'il y a un mix entre l'humour à la française, parce qu'il y a vraiment ça quand même. Je dis pas que les autres n'en ont pas. Les Belges, par exemple, en ont beaucoup, mais il y a ça, l'humour, et la qualité de l'image. C'est-à-dire que ce que disait Ludoc est vraiment réel, et ce que dit Théo aussi, c'est bon, ok, l'humour, on adore se marrer et tout, mais à un moment, on a envie que ce soit vachement bien produit, que ce soit beau. Mmh. Et même si on fait ça avec des bouts de ficelle au fin fond d'un studio, on se débrouille quand même pour que ça ait de la gueule, quoi.
J'ai l'impression que c'est un peu comme les labels de musique un peu indépendants, comme Banger qui ont percé à l'international. Oui. Je ne saurais pas expliquer pourquoi. C'est peut-être une question de vibe ou de chauvinisme français à se dire on est ensemble, on crée des trucs. On a peut-être un ego qui nous pousse à.
C'est possible. C'est
vrai, un ego qui nous pousse à essayer de faire les trucs bien ou à essayer de se challenger. J'en sais rien. Mais c'est vrai que souvent on nous le dit que le contenu YouTube, de manière générale, français, est plus en tout cas produit et pensé que les contenus des autres pays, quoi.
Moi, je vois un truc aussi intéressant, c'est qu'on est très solidaire entre créateurs.
Ouais,
et
ouais,
du coup, ça fait qu'on est très engagé, enfin que les communautés sont très engagées. Moi, je l'ai vu au moment de la Pixel War, je sais plus, il y a un ou deux ans.
À la Pixel War, il faut sous-titrer.
Il y a eu une petite bataille comme ça, une petite guéguerre avec les communautés espagnoles, qui sont normalement, en termes de nombre, beaucoup plus élevées. Et nous, on était petits francophones, beaucoup plus engagés, parce que les créateurs ont l'habitude de faire des choses ensemble, par solidarité, comme ça, pour essayer d'être un peu ambitieux.
Et le GP Explorer, notamment, par exemple, ça le montre, cette course.
Et du coup, j'ai l'impression qu'on est assez solidaires entre nous et que ça se reporte aussi avec les communautés qui répondent présents, qui sont très engagées. Et à travers le monde, ouais, on est peut-être dans les communautés les plus engagées. Quand il y a des événements mondiaux, on voit que les Français, ils sont quand même très présents à ce niveau-là.
Solidarité, sincérité, on a presque la devise de l'Internet français. Je vous propose de réfléchir à la troisième jambe. Mais d'abord, c'est Chapel Roan.
Good night.
Chapel Round, l'une des favorites des prochains Grammy Awards, les Oscars de la musique, avec 6 nominations, dont la révélation de meilleur album pop, meilleure performance, meilleure chanson pour Good Luck Babe, incontestablement l'un des hymnes pop de cette année 2024. Et maintenant, peut-être encore de 2025, elle passe le milliard d'écoutes, Chapel Round, et elle sera pour sa seule date en France, à Rock en Seine. Les places sont déjà en vente.
France Inter. Un monde nouveau. Mathilde Serrel.
Un tour de table avec mes invités Élise Lucet, Ludoc, Théodore Bonnet et Nico, qui sont 4 youtubeurs et youtubeuses, on peut le dire, pour Élise Lucet désormais, et qui nous parlent de ces 20 ans de YouTube de façon plus personnelle, avec leurs petits besties, leurs petits souvenirs, ou en tout cas la vidéo qu'ils aiment et qu'ils ont envie de nous faire partager. On commence avec vous, Élise Lucet.
Moi, je vais l'avouer, hein, je ne le connais pas depuis longtemps, c'est un pote qui m'a dit de regarder ça, et c'est Johnny Harris. C'est un Américain qui fait justement de l'enquête, de l'investigation, super bon niveau, très beau montage, enfin franchement super quoi, j'ai envie de m'inspirer de ça, parce que je pense qu'il y a des formats d'investig qui peuvent être faits aussi sur YouTube, et je trouve qu'il fait super bien le boulot.
On l'écoute.
Ouais.
Why would anyone try to build a futuristic city in a barren desert? That is a question I've had for a very long time. And one I intend to get to the bottom of.
Salut tout le monde.
Vous expliquez.
Salut tout le monde. Vous vous demandez comment on peut construire une ville totalement futuriste au milieu du désert. Bah, c'est une question que je me pose depuis un bout de temps. Je vais essayer d'y répondre. Ça commence comme ça et c'est dingo. Enfin, sa vidéo, elle est super top. Et puis, il y a d'autres vidéos qui sont très data aussi où il bosse comme un dingue. Enfin, la mise en image est super bonne. Et sur le fond, il est très bon aussi. Donc, chapeau quoi.
Alors, c'est sous-titré en français. Hein, ça...
Oui.
Pour ceux qui veulent suivre.
Ça l'était pas, je crois, hein, avant, et maintenant ça l'est.
Ouais, ça l'est de plus en plus.
Ludoc, votre bestie, votre choix sur YouTube.
Une pépite. Je sais pas si j'ai bien respecté le brief, parce que j'ai cru comprendre que c'était, il fallait que je dise, une des vidéos qui m'avait marqué quand j'ai commencé sur YouTube. Moi, c'était un petit court-métrage qui s'appelle J'ai vomi dans mes cornflakes.
c'est très prometteur.
Mais ça a 13 ans et c'était un petit court-métrage de 2-3 minutes. C'était très poétique et c'était le genre de vidéo que j'aimais bien. Il y avait une très belle voix off et surtout, c'est le genre de vidéo où à la fin, on a un peu envie de reprendre sa vie en main, de se reprendre, de faire des choses. Et c'est ce que j'aime bien aussi, cette puissance et cette influence que peut avoir YouTube. Donc j'avais cité ça, ouais.
On écoute.
Si les enfants veulent tous devenir astronautes, c'est pour se barrer de cette terre où ils devront vivre toute leur vie. Ensuite, ils grandissent, oublient la NASA à cause d'un 5,5 en maths, écoutent du black metal et vomissent la bière vendue par Pâques de Trente. Ils se haïssent eux-mêmes sans trop savoir pourquoi.
La vidéo qui a changé votre vie.
Ouais, ça fait partie des vidéos où je me suis dit, c'est cool ce... Cette inspiration comme ça, j'ai envie de faire la même chose.
Théodore Bonnet, votre vidéo, votre choix sur YouTube en 20 ans d'existence de la plateforme.
Ouais, moi c'était plus une Madeleine de Proust, un peu comme Ludoc. Alors ça n'a pas changé ma vie, mais c'était à l'époque, il y avait un collectif au sein de Golden Moustache qui s'appelait Suricat et qui était incroyable de créativité, d'originalité. C'était Flaubert, Julien Josselin, Vincent Tirel et Raphaël Descraques. Et du coup, ils faisaient plein de petits sketchs. Et nous, je m'en rappelle au Bagel. Quand on regardait les sketchs de Suricat, qu'il y en avait un nouveau qui sortait, on se disait « Ah, ils sont forts
!» Ça mettait la pression.
Bien joué, vraiment bien joué, quoi. Et du coup, ouais, ils sont restés. Enfin, c'était un des premiers à faire ce style de format. Et c'est resté, moi, ça restera à vie, je pense, une petite Madeleine de Proust.
C'est les premiers à avoir fait un long métrage aussi sur YouTube.
C'est vrai.
Un 1h15 qui s'appelait Les Dissociés.
Totalement autoproduit.
Ils ont fait, ouais, totalement autoproduit. Et un 1h15 comme ça sur YouTube en 2014 ou 2015.
C'est osé.
Ça, c'était osé. Et on va écouter justement un extrait de ce qu'ils ont fait, qui je pense aussi est une de mes vidéos préférées sur YouTube. Donc vous voyez, je vous donne ma voix aussi. C'est Movie versus Life.
In the movies.
Ok, je rentre dans le système et bingo.
In real life.
Qu'est-ce que tu fous là? Ça rame, t'es marrant toi, ça rame.
Donc, dans la vraie vie, on infiltre des systèmes. Les hackers sont toujours plus performants et dans la vraie vie, ça rame, quoi. C'était un coup de génie.
Ils avaient su vraiment relever exactement la différence entre le côté réel, fiction, qui a été repris plein de fois ensuite sur YouTube. Et ça a même lancé des trucs. Il y a eu Rap versus Réalité ensuite de Yvick.
De Mister V, d'autres formats.
Les réunions qui sont un peu dans le même esprit. Ça a lancé un style, quoi. Enfin, ça a lancé un espèce de style d'humour. Et c'était charmé, quoi. C'était incroyable.
Nico, votre choix, vous, en 20 ans de YouTube?
Alors bon,
en tant que jeune créateur de contenu, ouais, voilà, sur YouTube, vous venez d'arriver, vous étiez chez TikTok, vous, qu'est-ce que vous faisiez là-bas?
Ouais, bah, on a changé, on est un peu partout. Mais moi, c'est le premier truc sur lequel j'ai vraiment kiffé, et c'était vraiment Mister V, le rap. Et ça, c'est la première vidéo qui m'a fait vraiment kiffer. Et c'est, en vrai, il m'a quand même beaucoup, beaucoup inspiré dans ce qu'il faisait. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là, je me suis dit, c'est bien de faire des blagues sur Internet quand même. C'est bien.
On écoute Mister V.
Je roule en limousine, toi t'as même pas de caisse. Tu touches le SMIC.
Faut que je trouve un mot crime avec caisse. Qu'est-ce que je peux bien dire?
Paresse, sagesse,
Hermès,
herpès.
Tu touches le SMIC, moi je te touche les fesses.
Hein?
Ah non, non, je vais pas dire ça, je vais dire gonzesse. Je touche des gonzesses.
Mister V, grandes heures du studio Bagel, et puis on le retrouve aussi en voix off dans la pop culture, dans Loup-garou, le format qui a été déployé sur Canal+. Enfin, il est toujours un grand de YouTube.
Ouais. Mister V. Il est en prime depuis je sais pas combien d'années, il est tout le temps en prime.
Ouais, ouais, c'est ça.
Il a jamais eu de.
C'était votre héros, parce qu'on disait tout à l'heure, ils se sont connectés entre fans, Ludoc et Théodore Bonnet. Vous, Nico, c'était votre héros, Mister V?
Ouais, bah en vrai, dans tous les cas, quand j'ai commencé à regarder ça, c'est là où je me suis dit vraiment. Il y a un truc à faire, et c'est vrai que quand je fais des blagues sur internet et que t'es un petit peu métisse, bah t'es vraiment assimilé à lui un petit peu, hein. Donc il y a beaucoup de gens qui me disent oui, il y a un petit air. Bon, moi je trouve
sympa,
pas
ouais. Ouais. Qu'est-ce qui vous a plu particulièrement chez lui?
Bah je pense c'est parce que de base il y avait pas beaucoup de gens qui faisaient de l'humour aussi sur YouTube, et c'était l'une des rares fois et l'une des premières fois où je me retrouvais à rigoler devant mon ordi, et c'est ça qui m'a touché.
Oui, et puis Vic, c'est le plus ricain des Français de Grenoble en plus.
Ouais, c'est ça, il jouait beaucoup, en fait il y a énormément d'autodérision, tout passe, et c'est ça qui est bien avec lui, c'est vraiment il arrive à rendre tout en humour. Et vraiment, rien à dire. Vraiment, il m'a beaucoup inspiré.
Moi, ce qui m'a vraiment surpris, c'est quand je suis venue pour enregistrer qui est derrière la porte, il était avec Squeezie, ouais, évidemment, et mais il regarde tout. Mais tout, oui, alors ton cache de machin, ton envoyé spécial de trucs, enfin, il s'intéresse à 12 millions de trucs, donc ouais, c'est super.
C'est ça la clé.
Et c'est ça la clé, c'est la curiosité. Donc on l'a, curiosité, sincérité et... spontanéité, non?
Ouais.
Solidarité.
Et créativité.
Et créativité.
Bon, on a rajouté le bonus.
Allez, merci. Merci beaucoup à tous les quatre. Une devise de bonne année. Bah, c'est gratuit, c'est pour envoyer des SMS si vous n'avez pas d'inspiration. Merci d'avoir été avec nous pour célébrer les 20 ans de YouTube, la première chaîne télé de France. Ludoc, on vous suit sur les réseaux et on conseille vraiment vivement. Élise l'a vu aussi, votre documentaire, Comment j'ai traqué et fait arrêter un prédateur. C'est disponible sur votre chaîne YouTube. Théodore Bonnet, merci d'être passé entre deux tournages. On vous retrouve derrière la caméra de Squeezie la plupart du temps. Et on peut conseiller d'aller découvrir qui est l'imposteur si vous n'êtes jamais tombé dessus. Vous avez besoin de parler quand même aux autres gens de votre pays. Donc il faut voir absolument ce format. Élise Lucet, on vous retrouve évidemment tous les jeudis sur France 2 dans la télé couleur pour Envoyé spécial, mais aussi sur YouTube désormais avec des rushs. Et bientôt,
absolument,
votre invité dans le top 3, donc, qui est en train de se décider. Enfin, Nico, on vous suit sur tous les réseaux, il faut le dire, TikTok, YouTube, Twitch, Instagram. Pour vous trouver, il faut taper Nicotine ou Nicolas.
Ouais, on a double facette.
Grand merci, bonne année, bon anniversaire YouTube. Et merci à toute mon équipe. La rédaction en chef, c'est Redouane Tella. La réalisation, c'est Frédéric Milano. La préparation et le choix des sons aussi, c'est Marion Philippe. La programmation musicale, Juliette L'Orphelin. Et la technique cette semaine, c'est Gaspard Guy Bourget.